Ivan Ogareff occupait donc une chambre du palais. Une profonde obscurité régnait dans cette salle. Debout près d'une fenêtre, il attendait que l'heure d'agir fût arrivée. Il ouvrit la fenêtre de sa chambre et il alla se poster à l'angle nord de la terrasse latérale. Au-dessous de lui, dans l'ombre, passaient les eaux de l'Angara, qui mugissaient en se brisant aux arêtes des piliers. Il tira une amorce de sa poche, il l'enflamma. Il alluma un peu d'étoupe, imprégnée de pulvérin, qui lança dans le fleuve. C'était sur son ordre que des torrents d'huile minérale avaient été lancés à la surface de l'Angara. En un instant, comme si le courant eût été fait d'alcool, tout le fleuve s'enflamma, en amont et en aval, avec une rapidité électrique. Les maisons des berges, construites en bois, prirent feu de toutes parts. Une immense clarté dissipa les ombres de la nuit. « Enfin !» dit Ivan Ogareff. Il pouvait s'applaudir à bon droit. La diversion qu'il avait imaginée était terrible. La porte de Bolchaïa était presque libre. Ivan Ogareff rentra dans sa chambre. Mais à peine avait-il ouvert la porte qu'une femme se précipitait dans cette chambre, les vêtements trempés, les cheveux en désordre. « Sangar !» s'écria Ivan. Ce n'était pas Sangar, c'était Nadia. Au moment où, réfugiée sur le glaçon, la jeune fille avait jeté un cri en voyant l'incendie se propager avec le courant de l'Angara, Michel Strogoff l'avait saisie dans ses bras et l'avait plongée avec elle pour chercher, dans les profondeurs même du fleuve, un abri contre les flammes. Après avoir nagé sous les eaux, Michel Strogoff était parvenu à prendre pied sur le quai avec Nadia. Michel Strogoff touchait enfin au but. Il était à Irkoutsk. « Au palais du gouverneur !» dit-il à Nadia. Moins de 10 minutes après, tous deux arrivaient à l'entrée de ce palais. « Ivan Ogareff » s'écria-t-elle. Ivan Ogareff se jeta sur Nadia. Mais la jeune fille, un couteau à la main, s'adossa au mur, décidée à défendre. « Ivan Ogareff !» cria encore Nadia. Ivre de fureur, Ivan Ogareff tira un poignard de sa ceinture, s'élança sur Nadia et l'accula dans un angle de la salle. Ça l'était fait d'elle, lorsque le misérable, soulevé soudain par une force irrésistible, alla rouler à terre. « Michel !» s'écria Nadia. C'était Michel Strogoff. Michel Strogoff avait entendu l'appel de Nadia. Guidé par sa voix, il était arrivé jusqu'à la chambre d'Ivan Ogareff et il était entré par la porte demeure ouverte. « Ne crains rien, Nadia, » dit-il, en se plaçant entre elle et Ivan Ogareff. « Ah !» s'écria la jeune fille. « Prends garde, frère. Le traître est armé. Il voit clair, lui. » Ivan Ogareff s'était relevé et croyant avoir bon marché de l'aveugle, il se précipita sur Michel Strogoff. Mais, d'une main, l'aveugle saisit le bras du clairvoyant, et de l'autre, détournant son arme, il le rejeta une seconde fois à terre. Ivan Ogareff, pâle de fureur et de honte, se souvint qu'il portait une épée. Il la tira du fourreau et revint à la charge. Il avait reconnu, lui aussi, Michel Strogoff. Un aveugle. Il n'avait en somme affaire qu'à un aveugle. La partie était belle pour lui. Nadia, épouvantée du danger qui menaçait son compagnon dans une lutte inégale, se jeta sur la porte en appelant au secours. « Ferme cette porte, Nadia, » dit Michel Strogoff. « N'appelle personne et laisse-moi faire. »